Radio Prague, les informations.
Bonjour. L'ONU critique les déclarations xénophobes de Miloš Zeman et le traitement des réfugiés en République tchèque. Une délégation tchèque a été retenue à l'aéroport de Moscou. Et puis un film sur le photographe franco-tchèque Josef Koudelka en ouverture du festival du film documentaire de Jihlava. Le haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme a accusé ce jeudi la République tchèque de violer les droits des réfugiés de manière systématique. Zeid Raad al-Hussein a également exprimé son inquiétude vis-à-vis des déclarations publiques xénophobes et islamophobes du président tchèque Miloš Zeman, rapporte ainsi l'agence de presse Reuters. Les critiques du haut-commissaire portent notamment sur le fait que l'administration tchèque retient de manière courante les réfugiés pour une durée de 40 à 90 jours, les fouille et leur prend leur argent pour payer leur séjour dans les camps de rétention. Zeid Raad al-Hussein s'est également dit choqué des conditions de détention dans ces centres et estime notamment injustifiable la détention d'enfants. Une critique qui rejoint celle de la médiatrice de la République, Anna Shabatova, dont nous vous parlions mercredi dans les faits et événements. Du côté du château de Prague, on estime que la République tchèque est victime d'une campagne de dénigrement en raison de ses prises de position sur la crise migratoire. Le président Zeman maintient ses déclarations sur l'islam, a fait savoir son porte-parole. Une délégation tchèque avec à sa tête le vice-président de la Chambre des députés, Petr Gazdík, a été retenu sans raison apparente pendant plus de 3 heures ce jeudi matin à l'aéroport Cheremetyevo à Moscou. La délégation, composée de nombreux officiels tchèques et de membres de l'Association des légionnaires tchécoslovaques, est arrivée dans la capitale russe par avion gouvernemental et a été empêchée par le personnel de l'aéroport de retourner dans l'avion. Elle devait se rendre à Ulyanovsk dans le cadre de l'inauguration d'un mémorial dédié aux légionnaires tchécoslovaques en Russie. Selon Petr Gazdík, aucune explication ne leur a été fournie. Il a également qualifié cet événement de grave incident diplomatique. L'ambassade de République tchèque à Moscou a d'ailleurs immédiatement envoyé une note de protestation aux autorités russes. La délégation a fini par pouvoir repartir peu après midi. Ce jeudi, le président israélien Reuven Rivlin a rencontré le président de la Chambre des députés tchèque, Jan Hamáček, au menu des discussions. La situation et les questions sécuritaires au Moyen-Orient, la crise migratoire en Europe et la coopération bilatérale. Jan Hamáček a qualifié les relations tchéco israélienne d'excellente et a souligné que les deux pays pouvaient coopérer dans de nombreux domaines, en particulier la défense. Après avoir rencontré le président de la Chambre des députés, Reuven Rivlin s'est rendu à l'ouverture d'un forum d'affaires tchéco-israélien auquel participait également le président tchèque Miloš Zeman. Plus tard dans l'après-midi, il s'est rendu dans l'ancien ghetto de Térézine dans le nord du pays où il a rendu hommage aux victimes de la guerre et de la barbarie nazie. Dans moins d'une semaine sera lancé le Festival international du film documentaire de Jihlava, c'est un film consacré au photographe franco-tchèque Josef Koudelka, du réalisateur et photographe israélien Gilad Baram, qui fera l'ouverture de cette 19e édition. Josef Koudelka est considéré comme un des plus grands photographes tchèques. C'est à lui que l'on doit les photographies les plus célèbres de l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en 1968. Petra Kvitová, 5e joueuse mondiale de tennis, sera la chef de file de l'équipe de République tchèque, tenante du titre face à la Russie en finale de la Fed Cup les 14 et 15 novembre à Prague. La joueuse tchèque, double championne de Wimbledon en 2011 et 2014, sera épaulée par Lucie Šafářová, Karolina Plíšková et Barbora Strýcová. Les deux meilleures tchèques ont été victimes cette année de soucis de santé. Kvitová a souffert au printemps d'une mononucléose à l'origine de sa pause d'un mois et demi et Šafářová a été hospitalisée pendant une semaine en septembre à cause d'une infection bactérienne. On finit par un mot de météo. Il fera plutôt clair vendredi, jour de fête des Théodores en République tchèque, au moins sur toute la moitié ouest du pays, tandis que l'Est restera couvert. Les températures maximales, elles oscilleront entre 9 et 13 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à notre chère Anička pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous, chères auditrices et chers auditeurs du monde entier, à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figure tout d'abord un film remarqué, un film qui sort dans les salles tchèques ce jeudi, un film consacré en effet aux accords de Munich. Les accords de Munich, un point noir dans l'histoire des relations franco-tchèques. Un des acteurs de ce film est français, il a même été directeur de l'Institut français à Prague. Stanislas Piret, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est confié sur ce film intitulé « Perdu à Munich » pour Radio Prague. À ce même micro s'est également exprimée l'entraîneuse de l'équipe féminine de basket de Bourges. Les championnes de France en titre étaient en déplacement à Prague. Mercredi, c'était en Euroleague. Un déplacement chez les Pragoises, elles championnes d'Europe en titre. Bref, une affiche de choix pour le basket féminin en Europe. Une affiche sur laquelle nous reviendrons donc avec Valérie Garnier. Valérie Garnier, coach de Bourges, donc, mais aussi de l'équipe de France. Et puis, comme tous les 15 jours, la seconde moitié de cette émission sera réservé au Tchèque du bout de la langue, une rubrique qui traitera cette fois d'un sujet d'actualité puisqu'il sera question du mot réfugié. Très bonne écoute. Suivre les déboires du perroquet d'Edouard Daladier qui, à l'âge vénérable de 90 ans, ressurgit en République tchèque via l'Institut français de Prague et qui répète à tort et à travers les propos parfois polémiques de son défunt maître sur Hitler et sur les Tchèques. Tel est le postulat de départ de Ztracený v Mnichově, perdu à Munich, le nouveau film du réalisateur à succès Petr Zelenka qui sort sur les écrans tchèques ce jeudi. Actuel directeur de l'Institut français de Pologne, Stanislas Piret, qui connaît bien les pays tchèques pour y avoir débuté sa carrière à la fin des années 1980, s'est fait acteur pour ce long métrage. Pour Radio Prague, et plus précisément au micro de Pierre Maignan, Stanislas Piret raconte son expérience et évoque la toile de fond du film, douloureuse dans le cadre des relations franco-tchèques, à savoir les accords de Munich, quand en septembre 1938, les Français, sous la férule donc de Daladier et les Britanniques, ont laissé Hitler s'emparer des Sudètes tchécoslovaques.
Dans la première partie du film, vous êtes le directeur de l'Institut français de Prague. Or, vous l'avez déjà été dans la vraie vie. Vous avez été aussi directeur de l'Institut français en Roumanie, en Pologne maintenant.
En Hongrie aussi.
En Hongrie, donc. C'est un rôle qui était taillé pour vous.
Je suis prêt pour jouer de Trianon.
Pour jouer la prochaine fois en Hongrie, la question de Trianon, non, mais je plaisante. Non, mais c'est vrai que c'est un. Je pense qu'ils ont pensé à moi parce que Effectivement, je connais bien cette problématique. Puis je parle tchèque. Alors bon, je ne parle pas beaucoup le tchèque dans le film, mais bon, c'était intéressant de m'avoir pendant le tournage, parce qu'on n'avait pas besoin de traduire. Et puis j'ai des amis ici qui ont parlé de moi, et notamment Alex Schnauber qui a parlé de moi en fait au réalisateur. J'ai fait mon casting et en fait j'ai été pris. Voilà. Oui. Alors vous. Mais j'ai une histoire dans ces pays. Oui. Mais j'ai une histoire, mais qui ne remonte pas à Munich. Hein.
D'accord.
C'est une vieille histoire qui remonte à 89. Hein.
On en avait déjà parlé sur Radio Prague. Alors, vous n'êtes pas un acteur à proprement parler. Normalement, il me semble que vous avez touché par exemple à la peinture, à la littérature. Ouais. Comment vous êtes préparé pour ce rôle?
Écoutez, je ne me suis pas vraiment. J'ai bien lu le scénario. J'ai lu pas mal de choses autour de Benesch, notamment le livre de Marès. Antoine Marès, qui est très bien, qui est très intéressant. Mais l'interprétation, des accords de Munich par Tezach, et c'est aussi l'un des aspects du film très important.
En fait, Tezach, qui est un historien tchèque.
Et en fait, qui revient un petit peu sur ces accords, qui interprète un peu différemment. Hein, c'est-à-dire que pour lui, Benesch, en fait, a fait des accords de Munich une victoire diplomatique. J'en dis pas plus parce qu'il faut que les gens aillent voir le film. Mais donc, bien sûr, la France a trahi. C'est pas le seul pays qui est trahi. Hein. On parle assez peu des Anglais, mais les Anglais étaient en première ligne. L'interprétation de ça est intéressante parce que, elle dit que Benesch, en fait, a fait de sa faiblesse en fait une force diplomatique et que c'est finalement une victoire diplomatique pour les Tchèques. Et après, il y a une autre... Il interprète aussi la non-activité des Tchèques en 68, en 48 et en 68, à partir de sa lecture. Et ça, c'est assez intéressant, je crois.
Ça reste un moment un petit peu matrice des relations franco-tchèques, un moment douloureux de l'histoire relations entre la France et les Tchèques. Comment vous, ça a fait évoluer votre regard, ce film, sur ces...
Vous savez, c'est drôle, parce que là, moi, je me souviens, j'avais... mon premier séjour ici, c'était juste avant la Révolution de velours. Donc, c'était une période très intéressante, très intense. Et en fait, j'avais une secrétaire qui s'appelait Madame Boudinova. Madame Boudinova travaillait pour la Tchécoslovaquie officielle, bien sûr. Et c'était étonnant, parce que dès qu'on avait un conflit avec elle, elle me parlait toujours de Munich. c'était vraiment... Donc ça a été pendant très longtemps, je pense, une souffrance, une... Mais c'est vrai que bon, la France était très proche de la République tchèque, de la Tchécoslovaquie, et on ne trahit que le même, à mon avis. On ne trahit pas, on trahit l'identique, on trahit l'ami. En tout cas, bon, c'est bien que, pour la première fois, à ma connaissance, il y a un film qui porte sur ce thème. Voilà, et il y a cette lecture qui apporte vraiment sa pierre, sa lecture de ses sages. Il y a aussi cette poésie et cet humour qui font que, bon, voilà, on aborde ce thème, on s'en sort avec une pirouette.
Et enfin, une dernière question, vous êtes un petit peu chez vous à Prague, qu'est-ce que cette ville représente pour vous ?
J'ai beaucoup de souvenirs, pas que des souvenirs. C'est vrai que, j'ai assisté quand même à ces grands moments de la Révolution de velours, j'étais présent, donc ça c'est quelque chose qui, bien sûr, continue à me marquer. J'ai scellé des amitiés très fortes, très durables. Vous savez, souvent les Français disent que les Tchèques... En fait, ici, je suis chez moi, les Tchèques, mes amis me reçoivent à la maison, etc. Voilà, les Tchèques, ce sont des gens qui donnent assez difficilement leur confiance, mais quand ils vont donner, c'est pour la vie, quoi.
Voilà, c'était donc Stanislas Piret, ancien directeur de l'Institut français de Prague et acteur dans le film Ztracený v Mnichově, perdu à Munich, un film qui traite donc des accords de Munich et qui sort dans les salles tchèques ce jeudi. On passe au sport et au basket féminin. Sacré champion d'Europe pour la première fois de son histoire au printemps dernier, l'USK Prague accueillait le Tango Bourges mercredi à l'occasion de la deuxième journée de la phase de groupe de l'Euroligue féminine de basket. Défaite à la surprise générale sur leur parquet par les Turcs de Kayseri la semaine dernière pour leur entrée en matière dans la compétition, les Tchèques se sont relancés en s'imposant logiquement 63-49 contre les championnes de France en titre. De son côté, Bourges, diminué par l'absence de trois de ses internationales françaises, a enregistré une deuxième défaite consécutive, comme le regrettait son entraîneuse Valérie Garnier. Valérie Garnier qui s'est confiée au micro de Radio Prague.
Ouais, c'est le deuxième quart, enfin, c'est tout le match aussi, enfin, c'est notamment la bataille du rebond. On ne peut pas gagner un match quand il y a 44-25 au niveau du rebond, et quand on subit notamment 11 rebonds offensifs. Alors on sait qu'il nous manque nos trois joueuses les plus grandes, et on a du mal à exister au rebond, et quand on n'existe pas au rebond, ben voilà, on donne des ballons supplémentaires. On sait que c'est une équipe qui utilise beaucoup de possession de balles, et bon, c'est ce qui s'est passé, elles ont eu des secondes chances. Voilà, après rebond, elles marquent 13 points, je vois, sur leur jeu rapide, parce qu'elles ont des bons rebonds, elles en marquent 10, ça fait déjà 23. Et puis après, pareil, par l'absence de points de fixation, on a beaucoup de mal à s'approcher du panier, et après, on s'en remet à l'adresse. Et puis l'adresse, voilà, pour nous, elle est de 32%, et donc on a des chiffres qui parlent pour eux et qui montrent que c'est difficile de gagner un match. C'est compliqué, mais on peut faire mieux. Voilà, c'est ce que je leur ai dit. On doit grandir à chaque sortie. Alors on sait que l'équipe elle a été renouvelée à 50%. On sait qu'il y a des joueuses qui sont venues pour découvrir l'Euroleague. Mais maintenant, ces joueuses-là qui découvrent l'Euroleague doivent s'adapter au niveau. Et on sait que c'est plus haut, plus fort, plus vite, voilà, que le championnat. Et on sait que ça, il y a des choses qui ne pardonnent pas. On prend un tir qu'on ne doit pas prendre à tel moment. Ben derrière, on en prend deux. On s'oublie sur une défense, on en prend deux. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que chaque erreur, elle est punie. En Euroleague, elle est punie immédiatement par la qualité des joueuses adverses.
Vous avez évoqué la découverte de l'Euroleague pour certaines de vos joueuses. Lors des deux premiers matchs de groupe, vous avez affronté Ekaterinbourg, puis donc Prague, les deux dernières équipes finalistes de l'Euroleague. Est-ce que ces deux matchs vous ont permis ou vont vous permettre de vous faire une meilleure idée du potentiel de votre équipe ?
Non, mais le potentiel de l'équipe, on le connaît. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas la vraie équipe à ce jour. C'est-à-dire, quand il vous manque trois internationales françaises qui prétendraient être éventuellement dans le 5 de départ de notre équipe, ça nous... Voilà, il y a un vrai potentiel. Pour l'instant, on n'a jamais joué toute l'équipe au complet. Et bon, il manque juste deux filles à 1m96 et une à 1m91. Donc ça change quand même le visage de l'équipe. Après, il ne faut pas se cacher derrière ça. On essaye de faire avec ce qu'on a. On en a fait deux. Il en reste encore 12 matchs de Euroleague. On en a deux à venir qui sont à la maison. Voilà, on sera encore pénalisé par les absences. Mais bon, on aura notre public avec nous et nos repères.
Qu'est-ce que vous pourriez dire de cette équipe de Prague ? C'est une équipe qui, depuis plusieurs années, essayait de percer en Europe. C'est un peu difficile avec un championnat tchèque qui n'est pas très, très attractif, que l'USK Prague domine énormément depuis plus ou moins la disparition de Brno, qui était une autre grosse équipe européenne. La saison dernière, Prague est parvenue au Final Four, ce n'était pas la première fois, mais est parvenue à aller jusqu'au bout. Comment voyez-vous l'évolution ici du club ? Il y a aussi une nouvelle salle.
Moi, c'est de fortes individualités, mais de fortes individués qui forment vraiment une équipe. Et je trouve que c'est le plus à Prague. C'est pour ça aussi qu'elles ont gagné l'Euroleague l'année dernière. Pour moi, il y a des joueuses de talent. Il y a un maître à jouer, Palao, qui excelle aujourd'hui dans son rôle. Bon, il y a des shooters redoutables tels que Elotova. Le secteur intérieur, il est vraiment bien fourni. Il reste encore à rentrer, effectivement, Sonja Petrovic. Pour moi, ça reste l'un des favoris de la compétition, même s'ils ont quelques problèmes au démarrage, comme la saison va être longue. Et pour moi, c'est l'un des favoris avec Ekaterinbourg de cette compétition.
Au-delà du match retour, vous pensez que c'est une équipe que vous pourriez retrouver plus loin dans la compétition lorsqu'il s'agira des play-offs? Et est-ce que on suppose que vous souhaiteriez éventuellement retrouver cette équipe ou avec un groupe au complet?
J'aimerais vraiment les retrouver en play-off. Parce que si je les retrouve en play-off, ça veut dire que j'aurais passé les quarts de finale. Donc déjà, on aurait été dans les quatre premiers de la poule et que surtout, on aurait gagné notre quart de finale pour éventuellement jouer une demi-finale. Donc ça serait vraiment une bonne nouvelle si on les retrouvait plus tard pendant les play-offs. On va d'abord les recevoir à un moment donné. On est dans un vrai championnat, là, donc tout compte. Donc c'était bien de ne pas prendre un trop grand écart aussi ce soir.
C'était Valérie Garnier qui s'exprimait au micro de Radio Prague. Valérie Garnier qui est, rappelons-le, l'entraîneuse du Tango Bourges Basket, mais aussi de l'équipe de France de basket. Valérie Garnier, qu'on entendra de nouveau dans la rubrique sportive, ce sera lundi prochain. Elle s'exprimera sur l'évolution de l'USK Prague, mais aussi celle du basket féminin tchèque. C'est ainsi que s'achèvent ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie, c'est-à-dire pour la seconde moitié de notre émission, une seconde moitié dans laquelle on retrouve, comme tous les 15 jours, la rubrique du tchèque du bout de la langue, une rubrique très d'actualité cette fois et préparée exceptionnellement cette semaine par Alexis Rosenzweig.
Le tchèque du bout de la langue.
Chers amis tchécophiles, bonjour.
Dobrý den.
La tradition veut qu'en fin d'année, quand les rédactions cherchent désespérément à remplir colonnes et programmes entre Noël et la Saint-Sylvestre, un mot soit choisi comme mot de l'année écoulée, sondage plus ou moins fiable à l'appui. Le charisme du président tchèque, allié à son goût certain pour les boissons fermentées et la poésie, ont eu pour conséquence de faciliter les choix des mots des années précédentes, avec notamment sa fameuse virose,
Verosa,
contractée après une éprouvante réception à l'ambassade russe, puis le mot anglais pussy, mal prononcé mais traduit pour le moins crûment en tchèque par un chef de l'État très désireux de faire comprendre aux auditeurs de la radio publique que les Pussy Riot n'avaient rien à voir avec des félins de compagnie. Il ne fait guère de doute que le mot de l'année 2015, sélectionné dans 2 mois, sera lié de près ou de loin à la crise migratoire.
Migration crisis.
Que connaît actuellement l'Europe, d'autant que le président Zeman se prononce souvent sur la question avec le sens de la nuance qu'on lui connaît. Et quel sera ce mot? Eh bien peut-être...
Uprchlík, uprchlice.
Au féminin...
Uprchlíci.
Au pluriel, qui peut signifier réfugié et provient du verbe...
Uprchnout.
En français, fuir ou s'enfuir ou même s'évader. Du coup, un évadé de prison sera appelé un...
Uprchlí vězeň.
Et un réfugié, un...
Uprchlí z vlasti.
Le mot...
Uprchlík.
Est la dénomination d'un réfugié au sens officiel du terme, employé dans les conventions et institutions internationales. Par exemple, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est appelé en tchèque...
Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.
La langue tchèque propose néanmoins de nombreux autres mots qui sont censés définir le concept de réfugié ou de migrant sans vraiment distinguer les deux. À commencer par
běženec,
à rapprocher du verbe
běžet,
courir, et qui aurait été emprunté au russe běženec. Exemple dans le titre d'un article de cette fin de semaine.
Slovensko kvůli běžencům požádalo EU o policejní jednotky.
Soit en français, la Slovénie demande des unités de police à l'Union européenne à cause des migrants. Ou encore,
utečenec,
qui est un terme qui vient du verbe
utéct,
se sauver, et qui reste employé davantage en slovaque qu'en tchèque, même si une citation du chef de l'État s'impose à nouveau ici, citation rapportée par l'agence de presse ČTK.
Islámští utečenci nebudou podle prezidenta Miloše Zemana dodržovat a respektovat naše zákony a zvyklosti.
Soit en français, selon le président Miloš Zeman, les migrants islamiques ne respecteront pas nos lois et nos traditions. Troisième mot,
migrant.
Migrant est évidemment le terme emprunté aux langues latines et au verbe latin migrare, voyager au loin. Il est de plus en plus employé avec l'afflux massif de nouveaux arrivants. La légende d'une photo de l'agence ČTK était rédigée de la manière suivante.
Migranti a uprchlíci se tlačí ve frontě v registračním středisku pro žadatele o azyl.
Soit en français, migrants et réfugiés se pressent dans la file d'attente au centre d'enregistrement pour les demandeurs d'asile. L'asile, justement, parlons-en. Un demandeur d'asile est donc en tchèque un...
Žadatel o azyl.
Ou plus précisément un...
Žadatel o udělení mezinárodní ochrany.
Soit un demandeur de protection internationale. Et d'après les chiffres communiqués par les autorités, leur nombre en République tchèque, le nombre de ces demandeurs d'asile reste relativement stable, car d'autres pays comme l'Allemagne et la Suède restent les destinations privilégiées de ceux qui sont en route. Toutefois, si une personne fait une demande d'asile dans le sens de la Convention de Genève,
Genevská úmluva,
et qu'elle finit par être acceptée, cette demande, alors cette personne sera appelée
asylant,
dont l'équivalent français serait réfugié statutaire. Cela dit, avant d'obtenir l'asile, la procédure est longue et compliquée. Les choses se compliquent davantage lorsqu'on évoque les infrastructures dans lesquelles on enferme les migrants sur le territoire tchèque, gérées par le service des installations pour réfugiés du ministère de l'Intérieur, soit
Správa uprchlických zařízení ministerstva vnitra.
Ils sont parfois appelés
uprchlický tábor,
des camps de réfugiés, même si, selon la terminologie officielle, ils sont divisés en plusieurs catégories. Les voici.
Přijímací střediska.
Centre d'accueil, comme à l'aéroport de Prague et à Zastávka u Brna pour ceux qui entament une procédure.
Pobytová střediska.
Centre de séjour, comme à Kostelec et Havířov pour ceux qui ont déposé une demande d'asile.
Integrační střediska.
Centre d'intégration, comme à Jaroměř et Předlice ou encore Brno et Havířov pour ceux dont la demande a été acceptée.
Zařízení pro zajištění cizinců.
Infrastructure de rétention des étrangers, également appelée
Detenční zařízení.
Infrastructure de détention, comme à
Bělá, Vyšní Lhoty
et
Drahonice.
Et comme son nom l'indique, ce sont ces camps qui font l'objet des principales polémiques en ce moment et dont les conditions ont été critiquées par la
Ombudsmanka,
la médiatrice de la République en français. Le dernier centre, c'est
Centra na podporu integrace cizinců.
soit la catégorie des centres de soutien à l'intégration des étrangers qui sont disséminés dans tout le pays et cofinancés par l'Union européenne. Bref, il reste encore quelques semaines avant que le mot de l'année 2015 soit choisi. Faites vos jeux. En attendant, je remercie Irena Viernochova pour sa participation active à cette émission. La semaine prochaine, vous retrouvez évidemment, bien entendu, Guillaume Narguet pour un nouveau check du bout de la langue. Et je vous souhaite une très belle fin de journée ou de soirée.
C'est ainsi que s'achève l'émission préparée par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute des programmes en langue française de Radio Prague. Ahoy.